RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot,
les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Bonjour à tous. Bienvenue sur RMC, la radio, RMC Story, la télé. C'est parti pour les GG, pour les grandes gueules. 3 heures de débat, de discussion avec vous, bien sûr, au 32-16. Bonjour Olivier.
Bonjour Alain, bonjour les grandes gueules, bonjour à tous.
À tes côtés aujourd'hui, Flora Ghebali, l'entrepreneur dans la transition écologique. Bonjour Flora.
Salut tout le monde.
Mourad Boudjella, l'éditeur de bande dessinée et des nôtres aussi aujourd'hui. Bonjour Mourad. Et l'avocat Charles Consigny. Bonjour Charles.
Bonjour à tous.
Nous serons rejoints tout à l'heure par Raphaël Glucksmann. Ce sera un face au GG avec celui qui est pas encore, mais presque, candidat à l'élection présidentielle avec Place Publique, c'est le nom de son parti. Nous avons encore envie, c'est le titre de son livre. Il sera dans les GG. On s'intéressera à Grenoble, que Grenoble appelle les GG, parce que les offres d'emploi pour devenir dealer ou guetteur, elles sont au grand jour. Elles sont taguées sur les murs de quartier avec les tarifs 150 euros, 200 euros. 300 euros.
C'est plus efficace que France Travail, finalement.
Ça recrute à ciel ouvert.
Les nouveaux emplois jeunes.
Donc, vous venez en parler avec nous
et
tout à l'heure.
Et une clientèle haut de gamme.
Au 32-16.
Bah, 300 euros la journée.
D'abord, je vous propose qu'on s'intéresse, malheureusement, à l'affaire de la disparition de Liana avec les ratés de la justice.
La gendarmerie a été saisie par la mère d'une jeune fille de 17 ans, venant de découvrir que sa fille entretenait une relation depuis quelques mois avec un homme majeur. La jeune fille évoquait alors une relation consentie. Au regard de l'âge de cette jeune fille, aucune infraction n'était susceptible d'être caractérisée. Une procédure le mettant en cause avait été ouverte à la suite d'une plainte déposée au commissariat de Béthune en 2022 pour des faits de viol sur mineur de 15 ans. Cette procédure a donc fait l'objet d'une décision de classement sans suite. J'en arrive à la procédure qui était en cours au moment de la disparition de Liana. Le 27 août 2025, l'enfant a été entendu et a dénoncé des faits de viol qui auraient été commis sur sa personne par le mis en cause. Voilà en l'état les éléments dont je pouvais vous faire part. Comme indiqué de manière liminaire, je ne répondrai pas en l'état à d'éventuelles questions.
Voilà, c'est la procureure hier qui égrenait les dossiers concernant Jérôme Barella, le suspect numéro un dans l'affaire de la disparition de Liana.
Et cette procureure n'était pas très à l'aise, n'a pas répondu aux questions des journalistes, et on peut comprendre pourquoi, puisque la dernière affaire en date, celle de 2025, la concerne. C'est donc une maman qui va porter plainte parce que sa fille lui a expliqué qu'elle avait été violée par l'homme en question. Cette plainte ensuite s'est perdue, enfin en tout cas a fait l'objet de transferts judiciaires pour savoir quel parquet devait s'en saisir entre Auch et Toulouse.
Problème de juridiction.
Il y a pas non plus 150 kilomètres entre les deux villes, mais bon, ça a été long. Ça a duré 5 mois. Et puis finalement, en janvier de cette année, la gendarmerie a enfin le dossier. Et le problème, c'est que 6 mois après, en juin, alors qu'on apprend la disparition de la petite Liana, cet homme n'avait toujours pas été entendu sur cette affaire par la gendarmerie, comme s'il n'y avait pas peut-être un caractère d'urgence, sachant que n'importe quel spécialiste nous expliquera que, en général, un pédocriminel est un récidiviste en puissance. D'ailleurs, on apprend donc depuis hier qu'il y a 6 affaires en tout qui concernent Jérôme Barella, suspect numéro 1 dans la disparition de la petite Liana. Alors c'est vrai que il y a eu des signalements, des plaintes, etc., mais il n'a jamais été inquiété. Il a un casier judiciaire vierge. Donc il pouvait en toute impunité être libre, approcher des enfants, ce qu'il a fait à plusieurs reprises. Des affaires qui dessinent le portrait d'un prédateur sexuel. Donc c'est assez édifiant, accablant, et on se pose la question, est-ce que la justice protège-t-elle vraiment nos enfants ?
32-16 pour en discuter, en parler avec les grandes gueules, Flora.
C'est insupportable cette histoire, c'est absolument insupportable cette histoire. C'est-à-dire que je ne parle même pas de la disparition de Lia, de 10 ans, a été violée, qui a eu le courage, est-ce que vous vous rendez compte de la gravité de ce dont on est en train de parler ? 10 ans, elle a le courage d'aller voir ses parents, de leur dire voilà ce qui m'est arrivé. C'est très difficile de faire ça, je pense que faut se rendre compte. Là, les parents ont le courage de dire ok, on va aller porter plainte. Encore une fois, c'est très difficile de faire ça pour les parents, pour la petite fille. Et là, la petite fille doit aller au commissariat et répondre à des questions pendant des heures pour expliquer ce qui lui est arrivé. Enfin, faut se rendre compte. Et là, la personne, il ne lui arrive rien. depuis des mois. On parle d'une mineure, d'un enfant de 10 ans. Enfin, rien que ce fait-là, avant même de parler de la disparition de Liana, autre fait d'une gravité sans nom, devrait mettre toute la société en posture de réaction. Donc je pense que cette affaire doit nous permettre de faire un constat d'échec sur et la justice et la loi. Parce que là, il y a un problème derrière de loi. C'est qu'un pédocriminel, on peut pas le laisser. C'est pas possible. C'est la même histoire que l'affaire du périscolaire à Paris. On peut pas laisser quelqu'un qui est accusé par des enfants en liberté. C'est pas possible. Surtout si.
Enfin, et dans la possibilité de rencontrer possible. D'autres enfants. Je rappelle qu'il est père de deux filles, dont une des filles à l'âge de Liana, puisque c'est comme ça qu'il est rentré en contact avec Liana. C'était la meilleure amie de sa fille.
Donc maintenant, il y a la Fondation des femmes qui propose 140 mesures pour réformer le système. Je ne sais pas ce que fait la classe politique. Voilà. Je ne sais pas pourquoi ils ne sont pas en train de légiférer là-dessus.
On n'a pas entendu d'ailleurs le ministre de la Justice pour l'instant, Gérald Darmanin.
Moi, je
pour
pense
l'instant.
Qu'il faut inverser la question. Est-ce que la justice protège la pédocriminalité dans ce pays? Est-ce qu'il y a un système qui protège la pédocriminalité dans ce pays? Moi, j'ai dit que la réponse est oui. Qui a lu un peu dans le dossier Epstein se rend compte que par exemple, la justice française était au courant depuis très longtemps et n'a rien fait. Ou alors est allée avec une lenteur accablante. Il y a alors une époque dans les années 70 où la pédocriminalité était le sens raffiné de la sexualité pour la haute bourgeoisie. C'était très bien, on voyait des mecs comme Gabriel Maznev qui venait sur Apostrophe expliquer que sodomiser une petite fille, c'était le summum du bonheur et personne ne disait rien. Je pense qu'aujourd'hui la pédocriminalité est implantée et dans ce pays et dans le monde. Non, on n'a pas changé d'époque. C'est une réalité, la pédocriminalité dans ce pays. Oui. Et on ne se donne pas les moyens de lutter pour. Pourquoi? Allez chercher la réponse. Peut-être qu'il y a un lien entre ceux qui devraient lutter et ceux qui subissent, j'en sais rien. Aujourd'hui, c'est une véritable réalité. Le dossier Epstein en est aujourd'hui une révélation. Et donc, ce mec, la barrière d'abord, ce qui est le plus surprenant, c'est que les parents vont porter plainte. Moi, je pense que c'est lui qui porterait plainte contre moi. Mais le mec qui touche à ma fille, c'est lui qui va porter plainte contre moi.
C'est clair, c'est pas moi qui porte plainte. Il n'y a pas de système qui le protège.
Non, il n'y a
pas de système qui protège.
Aujourd'hui, dans ce pays, la pédocriminalité, et aujourd'hui, je ne dis pas qu'elle est couverte, bien sûr que non. Alors, mais on n'a pas les moyens. D'abord, la justice n'a pas les moyens. Et on n'a pas fait ce qu'il faut aujourd'hui, parce que pour endiguer un phénomène sur lequel on s'est.
Oui, mais là,
on s'est voilé les yeux, parce que c'est une réalité. La pédocriminalité dans ce pays est très présente.
Tu dis qu'il y a un système qui protège Barella. Il n'y a pas de système qui protège
Jérôme Barella. Non, je parle de la pédocriminalité en général. Voilà.
Non, la question est de savoir.
Il vaut mieux, aujourd'hui, tu as plus de chances d'aller en tôle si tu es délinquant fiscal que si tu es pédocriminel.
La question est de savoir, Charles, est-ce que simplement c'est l'histoire du manque de budget, c'est toujours un peu ce qu'on nous raconte. Ah, bah, vous comprenez, la justice n'a pas les moyens d'aller vite. Ou est-ce qu'effectivement il y a des priorisations et que c'est pas une priorité aujourd'hui, lorsqu'une petite fille dénonce des faits, de tout de suite s'en saisir, parce qu'on ne comprend pas tous ces délais en fait.
Normalement, les faits qui concernent des mineurs sont suivis par des brigades spécialisées. Qui sont censés être assez efficaces, et normalement une plainte dénonçant des faits de viol sur un mineur n'est pas censée rester lettre morte.
Mais quand il n'y a pas de flagrance, j'ai l'impression que là, tout d'un coup...
Non, moi j'ai déjà eu le cas... j'ai eu le cas de clients des cas dans lesquels des accusations étaient portées assez tard... Et ils étaient en garde à vue dans la foulée de la plainte pour qu'on les interroge.
Donc là, il y a eu un dysfonctionnement.
Je pense qu'il y a un effet, j'espère que ça n'est qu'un trou dans la raquette. Je crains que ce soit effectivement un peu plus général que ça. La justice est très très rapide quand vous êtes célèbre. Elle est extrêmement rapide quand vous êtes un homme ou une femme politique. Là, il y a perquisition, écoute, co-saisine de juge d'instruction, trois parquetiers sur le dos, des dizaines et des dizaines d'enquêteurs. Là, il y a tout. On vous prend vos téléphones, vos ordinateurs, etc. pour parfois des motifs dérisoires. Là, il y a du monde. Mais bon, quand il s'agit de protéger le Pékin moyen, on a l'impression que c'est moins prioritaire. Ça, c'est vrai. Moi, je trouve que la justice a un côté cocotte mondaine aussi. Ils sont toujours très rapides quand c'est un peu de mousse.
Une avocate me disait, je ne sais pas si c'est vrai, une avocate me disait, vous comprenez cette maman, la maman de la petite Rosa, donc ça, c'est l'affaire 2025. Elle est arrivée seule au commissariat ou à la brigade de gendarmerie. Déjà, elle aurait été accompagnée par un avocat, une avocate qui connaît un peu les rouages. Donc, en fait, quand on nous dit, allez porter plainte, vous serez bien accueilli, etc. Déjà, il faut avoir un avocat, une avocate, parce que sinon, c'est moins bien reçu. Et puis, cette personne, peut-être, n'a pas osé aussi un peu ruer dans les brancards, suivre son dossier, parce qu'elle dit, c'est il faut harceler. L'avocate, elle me dit, il faut harceler les magistrats, les enquêteurs pour que ça avance, sinon, ça ne bouge pas.
Oui, ça, c'est vrai. Mais ça, c'est vrai, mais pas normalement.
C'est très inquiétant,
normalement,
même.
Pas s'agissant de fait cette gravité. C'est-à-dire que normalement, un enfant de 10 ans qui se plaint d'avoir été violé, en principe, c'est pas non plus on m'a volé ma montre.
Ouais, mais il va devoir le prouver déjà.
De plus costaud. Donc, je trouve que. Il faut prendre des sanctions, en fait, à ce stade.
C'est-à-dire, deux enquêtes pas... qui sont diligentées, hein, voilà. Deux enquêtes administratives.
Oui, oui. Il faudra suivre la chose parce que je pense qu'il y a, pour le coup, de la part du parquet. Alors, madame la procureure, c'est gentiment
soustrait aux questions.
Voilà, c'est gentiment exempté de toute question. Mais c'est sa responsabilité. Là, pour le coup, c'est la responsabilité du parquet. Les flics, ils prennent la plainte et après, c'est le parquet qui décide ce qu'on en fait. Et je trouve qu'il y a une faute du parquet. Et que donc, s'il y a une faute, il doit y avoir des sanctions contre ceux qui ont laissé cette plainte sans y donner de suite.
Il y a une faute du parquet, mais ça interroge aussi sur la priorisation dans le traitement des plaintes.
Mais ça, normalement,
c'est-à-dire que la gendarmerie, là où a été déposée la plainte, effectivement, les gendarmes, ils ont ça de dossier parce qu'ils ont des violences, ils ont des cambriolages, ils ont sûrement aussi un meurtre ou des tentatives d'assassinat là, entre le Gers et la
Haute-Garonne.
Arrive une plainte d'une maman sur un gosse de 10 ans, chaque gendarme, il a à peu près 50 ou 70 plaintes ou 80 plaintes à traiter. Donc, comment tu priorises? Ça interroge.
Bon sens.
Non, mais ça interroge aussi. Non, mais sûr. T'as une mère qui dit, voilà, mon enfant de 10 ans, il a été violé. Puis à côté, le gendarme, et moi, j'ai deux meurtres aussi qui est sur les bras. Tu vois, comment tu traites les dossiers? Qu'est-ce que tu fais, quoi?
Pardon d'en revenir à mes marottes, mais déjà, tu augmentes le temps de travail dans l'ensemble de ces administrations.
Ou le nombre de personnes.
Tu augmentes le temps de travail. Moi, le nombre de fois où je me suis tapé le nez au palais pour déposer un recours parce qu'il était déjà 15h30, vous comprenez, il n'y a plus personne. Ça, c'est pas possible déjà. Une administration qui travaille à mi-temps, elle peut pas répondre aux problèmes qu'elle a à gérer alors qu'elle est, par ailleurs, sans doute, en tout cas s'agissant des juges, en sous-effectif. Donc déjà, moi, je pense que si on passait tout le monde à 40 heures effectives, on aurait déjà un peu plus de diligence.
On a Vincent qui veut réagir. Il est professeur en collège. Il nous appelle du Finistère. Bonjour, Vincent.
Bonjour.
Bienvenue dans les GG. Alors, on s'interroge sur les ratés de la justice et du coup, s'interroge sur la protection de nos enfants, non, Vincent?
Ben oui, moi je voulais réagir en fait à l'antenne, merci de me prendre en fait, parce que c'est un sujet qui est quand même hyper important quand on est enseignant, et c'est des choses qu'on a à gérer. Alors je vais pas vous dire quotidiennement, ni de façon hebdomadaire, mais au moins une fois par année, hein, quand on fait attention et qu'on est un peu vigilant auprès des élèves, c'est des choses qu'on a à gérer régulièrement.
Donnez-nous des exemples qu'on comprenne.
Alors, je vais pas rentrer dans les détails.
Non, bien sûr.
Vous comprenez bien que c'est des situations qui sont extrêmement délicates.
C'est-à-dire, c'est des élèves qui témoignent d'agressions.
Oui, du mal-être. C'est des choses qui ressortent souvent à l'adolescence. Mais moi, dans ma carrière, voilà, il y a eu des choses carrément très franches avec des élèves qui viennent se confier à vous sur des situations extrêmement compliquées. Et tout ça, nous, on le signale. C'est des choses qu'on fait. On a des protocoles, des signalements qui sont faits. Mais derrière, nous, ce qu'on peut redire, c'est que...
Et ça suit derrière, une fois que vous avez fait les signalements.
En partie, chacun fait à son niveau. Mais derrière, qu'est-ce qu'il y a concrètement? Pas grand-chose. C'est-à-dire que ça va durer des mois. C'est des mois où les gamins vont pas aller bien. Le suivi médico-psychologique est ce qu'il est en France. C'est-à-dire que il va y avoir un rendez-vous dans 3 mois. Sauf que pendant ces 3 mois, c'est des choses qui datent d'il y a très longtemps. Il y a l'adolescence, il y a des gamins qui décompensent complètement, des gamins qui vont mal, qui traînent leur mal-être. Et c'est beaucoup trop long, en fait. C'est beaucoup trop long. C'est pas pris suffisamment au sérieux. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? Ce matin, je lisais, attouchement sur, donc c'était dans un milieu familial, dans un journal local du côté de la Bretagne. 12 mois avec sursis pour attouchement. Non, mais attendez. Mais aujourd'hui, vous faites un excès de vitesse, vous prenez bien plus cher. Je suis désolé, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Il y a des gens qui font atteinte à des mineurs, qui leur volent leur jeunesse, qui leur volent leur bien-être. Et c'est pas suffisamment puni. On ne protège pas assez les enfants, ça c'est certain. Et c'est révoltant quand on est au contact des gamins. Enfin, je suis désolé, mais ça fait un peu tunnel, mais
non, j'écoute attentivement, au contraire.
Mais au contraire, voler la jeunesse, c'est voler la vie. Hein.
Exactement.
Et, ouais. Et n'oublions pas le rôle clé des profs qui sont pas du tout, je pense, accompagnés, suffisamment payés pour gérer ce genre de situation.
Bah, c'est un autre débat, mais c'est vrai que...
Bah, c'est pas vraiment un autre débat, parce que si vous devez, en plus d'enseigner un cours, gérer des situations aussi compliquées, c'est un autre métier, donc c'est une nouvelle casquette.
Soutenu déjà.
Vous devriez vous-même être soutenu, avoir des formations, voire avoir du soutien psy, parce que c'est pas facile de recueillir des témoignages comme ça.
Ah non, 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 il y a certaines fois, vous rentrez chez vous, vous ramenez le malheur du gamin avec vous, et puis vous avez intérêt à être solide pour pouvoir le gérer, quoi, parce que ouais, il y a des choses quand vous le prenez dans la tronche, voilà, c'est pas toujours simple, ouais.
Vincent, je pense que la plupart des affaires d'agression sexuelle ou de viol sur enfant, c'est au sein de la famille, hein, faut toujours le rappeler. Hein.
Vincent, je vous remercie de votre témoignage. Merci l'enseignant dans le Finistère. Merci d'avoir été avec nous. On va continuer la discussion dans un instant. Liana, on est à une semaine maintenant depuis depuis sa disparition. Et ce que l'on apprend à travers ce que nous a dit la procureure hier, c'est qu'il y avait d'autres affaires, d'autres dossiers concernant le suspect numéro 1, Jérôme Barella, alors qu'à chaque fois c'était terminé par pas suffisamment caractérisé et classement sans suite. Voilà. Et puis, moi j'ai en tête ce que disait hier la mère de la fille, de la petite Rosa, en disant, à chaque fois que j'ai appelé le gendarme, il y a un gendarme qui m'a dit, si vous continuez, c'est contre vous qu'on se retourne, parce que ça devient du harcèlement. Ouais, c'est-à-dire qu'elle insistait.
Elle lâchait pas.
Elle insistait auprès des gendarmes. Elle disait, foutez-nous la paix, qu'on a autre chose à foutre, quoi. Dingo. Vous venez en discuter avec nous au 32-16. Il est 9h20. Vous êtes sur RMC et RMC Story.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Les recherches continuent pour retrouver Liana, parce que c'est bel et bien de l'affaire de la disparition de la petite Liana dont nous parlons sur RMC, RMC Story, avec les GG, avec les grandes gueules, avec Charles Consigny, Mourad Boudjelal et avec Flora Guebali. Et c'est vrai qu'hier, lorsqu'avec Olivier, on suivait la conférence de presse de Madame la procureure Clémence Meyer, procureure d'Auch, au fur et à mesure qu'elle évoquait... Nous, on pensait qu'elle allait parler de l'affaire Liana en elle-même et d'une plainte. Et puis, au fil de son intervention, le dossier du suspect numéro 1 s'alourdissait. Et on n'en revenait pas, effectivement, de voir... comment la chaîne judiciaire s'était trompée à ce propos.
Oui, d'autant plus que les spécialistes qu'on avait sur le plateau nous rappelaient qu'en matière de pédocriminalité, on a souvent affaire à des récidivistes. Donc quand il y a déjà une affaire ou deux affaires, ça doit mettre la puce à l'oreille. C'est-à-dire que les enquêteurs se disent « Oh là là, que se passe-t-il autour de ce type ?» Quand même, ça fait beaucoup. Et ce que je comprends pas, c'est que même si c'est classé sans suite, parce qu'il n'y a pas suffisamment de preuves, parce que c'est pas suffisamment caractérisé... La succession de toutes ces affaires devrait quand même interpeller. Alors peut-être qu'il y a un problème aussi des suivis judiciaires. Moi, je pense qu'il y a aussi la bureaucratie. C'est-à-dire que quand on nous explique que dans l'affaire de 2005, la fameuse petite Rosa et la mère qui porte plainte, les parquets ont mis 5 mois pour se ressaisir. Je veux dire, 5 mois. Enfin, on est aujourd'hui, tout ça peut pas aller plus vite. Alors, la justice, à mon avis, doit quand même faire son examen de conscience. Et j'ai peur.
Mais la justice ne peut rien leur dire. C'est-à-dire, tu fais la moindre critique sur le temps que ça prend, sur des erreurs, sur la déresponsabilisation des juges, sur leur manière systématique de se couvrir les uns les autres en cas de problème, tu es un nazi, si tu veux. Alors que... Mais je te jure, c'est un bloc monolithique de gens qui ne supportent pas la moindre critique. Mais souviens-toi de la crise de nerfs qu'ils ont imposée au pays quand Emmanuel Macron a nommé Éric Dupond-Moretti garde des Sceaux. C'était une déclaration de guerre, leur syndicat, parce que c'était un avocat et puis parce que c'était un avocat qui baisse pas la tête. Et d'ailleurs, après, ils lui ont même fait un procès. Ils ont essayé de l'empêcher d'agir. Ils ont été le perquisitionner, d'ailleurs. Ils sont allés à la chancellerie pour une histoire vaseuse. Ils ont trouvé des coffres dans le vieux bureau du garde des Sceaux qui n'avait pas été ouvert depuis Louis VI le Gros. Ils les ont ouverts à la meuleuse et au chalumeau dans le jardin de la place Vendôme. Ça s'est passé quand même. La juge Jeannine Drey, je crois, à l'époque de la CJR. Donc pour Dupond-Moretti, il y a du monde. Mais pour Liana, il n'y a personne. Pardon d'être... Là, je grossis le trait un petit peu, mais... Voilà, ils ne feront pas leur examen de conscience. Dernier élément, je le cite souvent. Aux États-Unis, souvenez-vous que George Floyd a été le meurtrier de George Floyd, le policier qui l'avait tué, vous savez, I can breathe, jugé, condamné dans l'année. Et pas avec une mauvaise justice.
Comme quoi c'est possible.
Comme quoi c'est possible, bien sûr.
Bah, c'est peut-être aussi un problème de nombre de magistrats par rapport au nombre d'affaires qui ont explosé ces dernières années, alors que la justice n'a pas vu vraiment ses moyens.
Flora, et puis ensuite on va au 32.
J'allais dire qu'il y a un mot qu'on oublie dans cette affaire, et ça m'étonne que ce soit moi qui le mette sur la table, mais tu l'as fait aussi, c'est le mot bureaucratie. Oui. Parce que, et c'est ça qui est effrayant, c'est comment on peut mélanger une affaire aussi humaine que... le viol potentiel de jeunes filles, de mineurs, d'enfants, le viol potentiel d'enfants, avec des cases administratives à cocher. Et c'est ce qu'on voit quand on voit le très très bon film L'Abandon sur l'affaire du meurtre de Samuel Paty, de l'assassinat tragique de Samuel Paty. Donc c'est une affaire de terrorisme. Et en fait, on voit dans le film, c'est très clair, le policier qui a trois cases à cocher, il doit choisir entre les trois, il n'a pas le choix. Et du coup, il met injure à caractère sexuel. Parce que, mais ça n'a rien à voir avec l'affaire, parce que il a montré une de Charlie Hebdo où on voit le prophète à poil. Donc il y a quelqu'un à poil, excusez-moi du terme, et donc il doit cocher cette case. Et donc en fait, au lieu de protéger le professeur qui est la valeur la plus importante de notre République, il y a un policier qui se retrouve à cocher une case administrative absurde qui n'a rien à voir avec l'affaire. Et si ça se trouve, ce qui s'est passé dans toute cette histoire là, c'est la même chose. C'est qu'en fait tout le monde se retrouve noyé dans la bureaucratie, donc c'est pas les humains qui sont en cause, parce que les humains qui sont derrière, c'est des gens comme vous et moi qui font que leur métier, et eux-mêmes sont sanctionnés, ils risquent d'être sanctionnés s'ils font pas leur métier. Donc eux, ils font que leur métier, mais ils sont contraints par une bureaucratie monstrueuse, et je ne comprends pas que dans des affaires aussi humaines que celle-ci, on en soit là.
Nous sommes avec Pascal. Pascal veut témoigner, il nous appelle de Savoie. Bonjour Pascal, merci bonjour. D'être en direct dans les GG, dans les grandes gueules, parce que vous-même êtes une victime. Victime oui. d'actes pédophiles qui remontent à plus de 30 ans, hein, c'est ça, aujourd'hui
40 même.
40, et de la part d'un directeur d'école.
Oui, tout à fait.
Et vous vouliez témoigner, pourquoi Pascal, 40 ans après ?
Parce que déjà à l'époque, quand je vois ce qu'il a pris en termes de peine, c'est juste... c'est aggravé, c'est scandaleux. C'est inhumain. Quand on voit le nombre d'affaires qu'il y a eu, vous pouvez la regarder, hein, c'est... pas peur de le dire, hein, c'est un iceberg, c'est un directeur d'école d'iceberg d'une école primaire. Il y a eu, je crois, si je dis pas de bêtises à l'époque, connu. Je crois qu'il y a eu 62 affaires, je crois.
Et il a pris quoi ? Il a pris quoi ?
Ah, il a pris 7 ans.
Il en a fait combien ?
Bah, il en a fait la moitié.
5. C'est beau, hein ?
Donc là, aujourd'hui, il est libre.
Ouais, oui, il est libre depuis très longtemps, oui.
Et il a fracassé la vie de combien d'enfants ? Dont la vôtre ?
Il a fracassé la mienne.
Oui, dans la vôtre, c'est pour ça, oui. Ouais.
Quand vous dites fracasser, racontez-nous.
Alors, moi, ma vie s'est arrêtée à 8 ans, à l'âge de 8 ans. Et j'ai redémarré ma vie à 40 ans.
Comment vous avez fait ?
Une séparation. La séparation de trop, en fait, je pense. Donc là, à ce moment-là, on se dit, bon, ben, il faut faire quelque chose. Hein. Parce que j'en avais jamais parlé avant.
Ah oui, jamais.
Jamais.
Vous avez gardé ça pour vous ?
Même mes parents n'étaient pas au courant. Personne n'était au courant.
Et c'est comment c'est revenu ? Comment, à quel moment vous vous êtes dit, il faut que je prenne ça en main ?
Bah, quand vous vous séparez, que vous avez un enfant qui a 5 mois, et que bah, vous vous dites, peut-être que ça s'arrête maintenant, en fait. Parce que je faisais que connerie sur connerie. Attention, hein, rien de caractère pédophile, ni quoi que ce soit. Mais
votre comportement était lié à ça.
Mon comportement était le comportement de quelqu'un qui trompait toutes ses femmes, qui faisait que des bêtises, qui faisait que des conneries, et que bah, à un moment, tu te dis... c'est ça ta vie, t'as envie d'en faire ça, et en fait, bah non.
Et pour vous, vous êtes remonté, vous avez fait un lien avec ce que vous aviez vécu à 8 ans ?
Bah, on se dit que de toute manière, aujourd'hui, ils l'ont arrêté, d'accord ? C'est très bien. Mmh. Un moins, mais bon, il y en a encore tellement, mais un moins. Mais il va prendre quoi ? Ah bah oui, il est malade. Ah oui, facile.
Ah oui.
De toute façon, aujourd'hui, c'est facile. C'est dès qu'on fait une connerie, que ce soit pour le terrorisme, que ce soit pour... On est malade. Non, on n'est pas malade.
On est responsable de ce qu'on
fait. Il est en liberté aujourd'hui ?
Ah oui,
oui, il a fini.
Et vous n'avez jamais envisagé d'aller le voir ?
Non, bah non.
Je ne répondrai pas à cette question.
Et vous vivez toujours dans la même ville ?
Vous aurez l'esprit, parce que c'est une bonne façon d'exorciser les choses aussi.
Vous vivez toujours dans la même ville ?
Ah non. J'ai quitté la ville, j'ai quitté ma région en 2011. mais il habitait pas loin de chez mes parents.
En plus, mais Pascal, à l'époque des faits, est-ce qu'il y avait des rumeurs ou quoi que ce soit? Est-ce qu'on des enfants ont tenté de parler?
Pendant deux ans, on n'arrêtait pas d'en parler, des gens en parlaient. Et en fait, c'est un ami à moi qui a laissé une lettre. Donc vous imaginez ce qui s'est passé, hein, il s'est pendu. Il a laissé une lettre et c'est là que l'affaire a démarré et que les parents ont porté plainte en disant que de toute manière, ça faisait déjà très longtemps qu'ils en parlaient, que personne ne le croyait, que... Et en fait, c'est là que l'affaire a démarré. Et puis,
Les
langues se sont déliées. Les gens ont commencé à parler. On est arrivé à, je crois même 62. Je dois me tromper. C'est même plus que ça. Parce que même moi, dans ma famille, si j'en parle à des parents à moi, il a fait aussi des attouchements sur
plusieurs générations. En fait.
Bien sûr.
Toute impunité.
Mon parrain a été attouché aussi sexuellement par lui.
Ah oui.
Il y a une époque où les sanctions étaient. Enfin, aujourd'hui, c'est pas le top. Moi, je me souviens dans ma lointaine jeunesse que on avait tous repéré des pédocriminels, oui. Des pédophiles. Hein, je veux dire, on avait.
Aujourd'hui,
parce qu'ils sont devenus un monsieur qui t'amenait au cinéma et il avait la réputation d'amener les gamins au cinéma pour faire des attouchements et ça se disait, tout le monde le savait, quoi. Mais le mec, il était toujours en liberté.
Oui, mais l'affaire est la même aujourd'hui.
Ouais.
Et vous verrez.
Oui, mais aujourd'hui, on est. On est censé avoir pris conscience de tout ça, c'est-à-dire que quand même les temps ont changé.
Non, aujourd'hui, la pédocriminalité règne dans ce pays.
Non, je suis pas d'accord.
Avec ce qui se passe avec Liliana, on se rend compte que non, effectivement, les temps n'ont pas vraiment changé.
Et c'est peut-être qu'une goutte d'eau.
Et on oublie toutes celles d'avant.
Mais bien sûr.
Oui, bien sûr.
Il y a rien eu, il y a rien à changer, rien ne changera. Tant qu'il n'y aura pas des sanctions plus importantes que ça.
Ouais. Mais est-ce, non, pas plus parce important, que Pascal, beaucoup plus important.
Est-ce que moi je me demande si effectivement, comme ce sont des enfants, est-ce qu'on les prend au sérieux? C'est ça non. qui me parce qu'il y a l'affaire aussi du périscolaire parisien quand même qui a mis beaucoup de temps à surgir et à devenir quand même cette affaire incroyable et scandaleuse et médiatique et judiciaire maintenant. Mais les parents quand même pendant des années ont porté plainte.
L'abbé Pierre.
Donc est-ce que quand il s'agit des enfants. Et est-ce que Outreau a pas fait du mal d'ailleurs? Parce que Outreau, c'est des enfants qui ont accusé à tort certains adultes. Ça. Oui, mais est-ce que ça a pas fait du mal et que certains magistrats se sont dit ouh attention la parole des enfants, faut la prendre avec des pincettes parce qu'ils peuvent aussi raconter n'importe quoi.
Il y a eu Outreau, souviens-toi, qu'il y a eu les enfants, mais il y a eu les adultes qui ont raconté n'importe quoi aussi.
Oui, bien sûr.
C'était un imbroglio terrible. Mais Pascal,
les adultes qui ont poussé les enfants à raconter n'importe
quoi. Je ne garde pas 20 ans quoi.
Pascal. Je voudrais qu'on écoute un autre témoignage, celui de Nicolas.
Merci Pascal de nous avoir appelé. Oui. C'est courageux de faire ça.
Nicolas qui est gendarme dans le Grand Est. Bonjour Nicolas.
Oui, bonjour.
Parce que dans la première partie de la discussion, on a pointé du doigt aussi la responsabilité des gendarmes dans le traitement de la plainte. C'est ce qui vous a fait réagir, Nicolas.
Oui, parce que en fait, on aimerait tellement aider au mieux. C'est tellement compliqué.
Pourquoi?
Une journée comme j'ai passé il y a deux semaines, par exemple, dans la journée, moi, tout seul à l'accueil, à accueillir les gens pour les plaintes, à prendre le téléphone, j'ai eu deux viols, deux agressions sexuelles et deux violences intrafamiliales. Qu'est-ce que je priorise le lendemain?
Ouais.
Qu'est-ce que je fais le lendemain?
Les mineurs, par exemple, quand même.
Les mineurs.
Oui, les mineurs,
oui, par exemple. Oui, mais ça veut dire qu'il y a une partie qui sera maltraitée.
Exactement. Et sauf que moi, quand je rencontre au parquet, monsieur Consigny, vous savez comment ça se passe, quand je rencontre au parquet le soir de tout ça, déjà, je mets une heure et demie à voir le parquetier, mais il y est pour rien, parce qu'il a beaucoup de boulot aussi. Mais le lendemain, mon chef, il me dit, mais attention, demain, il faut aller faire de la police route, et puis il faut aller contrôler les bus, et puis il faut aller voir les maires aussi.
Oui, mais oui, alors la police route, c'est important, il y a des morts sur la route.
Ça sert à rien.
Mais pardon, les contrôles radar sont peut-être moins importants que protéger une petite fille, par exemple. Excusez-moi, mais aujourd'hui, par exemple, il y a beaucoup de plaintes pour diffamation, et parce que tout le monde maintenant porte plainte contre tout le monde. Et puis là, ça peut aller vite, là. Et donc, on mobilise quand même des magistrats, des tribunaux, pour des trucs qui se terminent avec une simple amende ou une condamnation.
Bien sûr.
On ne pourrait pas prioriser, puisque visiblement il n'y a pas assez de moyens pour tout, mais
oui, mettre le paquet sur ce qu'il devrait y avoir une justice de l'urgence et une justice,
les urgences hospitalières.
Mais j'adorerais, mais il faut voir ça avec mes chefs, moi, petit gendarme.
Ben oui, c'est pas vous, bien sûr.
C'est pas le problème, quoi.
Bien sûr.
Alors, moi, j'adorerais les aider, ces gens-là, je veux bien y passer mes nuits, mais sauf que je peux
et
pas.
Dans les plaintes que vous recevez, dans les plaintes que vous recevez, est-ce qu'il y en a beaucoup dont vous vous dites, bon. C'est fantaisiste ou est-ce que dans l'ensemble vous semble que les gens
sérieux, je prends tout au sérieux, je peux pas sélectionner, je vous cache pas
mais je vous dis pas de sélectionner, mais votre sentiment, est-ce que vous avez le sentiment que c'est plutôt des plaintes qui sont fondées Ou est-ce que dans l'eau, il y en a certaines où vous vous dites que...
Je vous cache pas que quand je vois une jeune femme que je vois pour la 30e fois, qui vient déposer plainte pour la 30e fois pour viol et qu'il y a eu 29 avant... 29 ouais. classements sans suite, je priorise un peu moins pour le coup. Elle, c'est, on va pas se mentir.
Mais il y en a une comme ça.
Mais on sait.
Mais c'est pas la majorité
c'est
des
quoi,
plaintes.
Nicolas, quoi. C'est quoi la plainte la plus récurrente que vous recevez?
Ah, la plainte en ce moment et depuis quelques années, le plus récurrent, c'est quand même les violences intrafamiliales.
Ouais.
Violence sexuelle ou physique ou...
Non, physique, mais ça c'est pareil. À chaque fois, c'est une pauvre dame qui est en détresse. Il faut l'aider aussi en priorité. Alors pourquoi elle est pas une autre?
Il faut la protéger
voilà,
aussi.
C'est ça le problème, quoi.
Il faut protéger ceux qui sont en danger.
C'est un
il faut des moyens, alors, justement. Ça, c'est une priorité. Voilà,
c'est un manque d'effectifs, manque de moyens, c'est quoi?
Voyez-vous, cette journée où je vous dis, où je prends toutes ces plaintes-là, je suis tout seul au bureau. Et en même temps, j'ai le téléphone. J'ai le gars qui appelle parce que le voisin, il fait du bruit. Au bout d'un moment. Et donc, à la fin de la journée, je relis ma plainte et je me dis, merde, j'ai fait des fautes d'orthographe et j'ai oublié ça.
Nicolas, c'est quoi qui vous aiderait le plus dans votre activité professionnelle
d'avoir? Il faudrait que vous soyez pour que vous soyez efficace.
Dans nos petites brigades de campagne, là, il faudrait doubler les effectifs quasiment. Ouais.
En doublant les effectifs, vous aurez le temps d'être vraiment efficace, vous pensez?
Exactement. Il faudrait, quand je prends une plainte comme ça, que je sois posé avec cette dame dans mon bureau. Que je prenne clairement sa plainte, même si ça dure une demi-journée, une journée, mais que je ne sois que là pour elle, en fait. Pas pour le Pékin du coin, qui va venir, excusez-moi du terme, m'emmerder, parce que le chien du voisin, il aboie, quoi. Voilà.
Nicolas, merci vous aussi de ce témoignage qui nous a donné et aidé à comprendre l'ampleur de la tâche et de la difficulté aussi pour vous les gendarmes qui recevez les plaintes gendarmes ou policiers d'ailleurs. Il est 10h. Merci Nicolas, merci d'avoir été avec nous. Il est 10h20. Dans un instant, on s'en fout pas. Restez avec les GG, avec les grandes gueules en direct sur RMC avec Flora Guebali, Charles Consigny et Mourad Boudjelal.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC et RMC Story. Les GG avec aujourd'hui l'avocat Charles Consigny, avec Mourad Boudjelal, l'éditeur de bande dessinée, Flora Guebali, l'entrepreneur dans la transition écologique, nous accompagne. Je vous rappelle tout à l'heure, on aura un face au GG avec le presque candidat à l'élection présidentielle, Raphaël Glucksmann. Il reviendra commenter l'actualité, bien sûr, répondre aux questions sur sa presque candidature et presque campagne. Si on vous interrogeait sur les impôts, là, tout à l'heure aussi, on a envie de savoir comment vous vous sentez. C'est le dernier jour de la déclaration de revenus.
Aujourd'hui.
Ouais, jamais. C'est aujourd'hui.
Léger.
beaucoup plus léger, Mourad Boudjelal. Non, ce qu'on voudrait savoir, c'est votre état d'esprit. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est devenu insupportable de déclarer ses impôts, déclarer ses revenus au regard de, vous savez, le fameux dicton, est-ce que j'en ai pour mon argent? Est-ce que c'est devenu insupportable de déclarer ses revenus? On en parlera tout à l'heure à 10h20 et puis à 10h que les habitants de Grenoble nous appellent à propos de ces offres d'emploi. 300 euros la journée, maintenant les offres d'emploi pour embaucher des dealers, des guetteurs, elles sont taguées sur les murs au vu et au su de tout le monde. Voilà, vous réagissez au 32-16. En attendant, c'est l'heure du on s'en fout pas.
RMC, les grandes gueules.
On s'en fout. On s'en fout pas. Bonjour Anaïs Inès Sainz.
Bonjour les GG, bonjour à tous. D'abord la Cour des comptes qui déconseille de baisser les taxes pour compenser la flambée du pétrole. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Flora?
On s'en fout pas.
Charles?
On ne s'en fout pas.
Mourad?
On s'en fout pas.
Selon le Conseil des prélèvements obligatoires, l'organisme lié à la Cour des comptes, la sortie des énergies fossiles amènerait à terme à faire disparaître 30 milliards d'euros de recettes pour l'État. Donc clairement, ce n'est pas le moment de baisser les taxes sur le carburant. Flora, pourquoi tu t'en fous pas?
Parce que c'est la preuve de toute l'absurdité de notre système, c'est-à-dire qu'il y a soi-disant une volonté de transition énergétique. Je rappelle qu'on est présidé par une personne qui s'appelle Emmanuel Macron et qui a fait son discours de l'entre-deux-tours sur le thème « Ce quinquennat sera écologique ou ne sera pas ». Bon, certes, il a régulièrement changé d'avis depuis, il n'empêche qu'il y a quand même une volonté affichée de transition énergétique. Et il y a la Cour des comptes qui fait les comptes, comme son nom l'indique, et qui dit « Ah mince, il y a 30 milliards de recettes en moins, on annule tout ». tout. C'est la preuve qu'aujourd'hui, c'est pas la politique qui règne, c'est la bureaucratie. Et la première chose à faire si on veut retrouver le pouvoir, c'est de retrouver le pouvoir sur l'administration. Aujourd'hui, on est gouverné par l'administration. Moi, je comprends pas. Moi, si j'étais candidate à la présidentielle, je ferais un livre que là-dessus. Parce qu'en fait, c'est le point commun de tous nos problèmes. Donc, on parlait de la petite Liana. Allez savoir ce qui s'est passé. Ah ouais, mais c'est peut-être votre impact sur moi. Non, je crois pas.
Sarah Saldman, mais dans l'autre sens.
Non.
Elle est bonne.
Elle est très bonne.
Sarah Saldman se gauchise et Flora se droitise.
Alors, bah, figurez-vous que c'est pas de droite, au même titre que la sécurité c'est pas un sujet de droite.
La liberté, c'est pas une valeur de droite.
Non, et surtout, c'est pas une question de liberté, c'est une question de système qui fonctionne. Moi, je veux que le système, il fonctionne pour protéger les plus précaires, pour conduire la transition énergétique, pour, en fait, je veux que les services publics fonctionnent. C'est pas de droite de dire ça. C'est la moindre des choses.
Alors, réaction Mourad.
Et je suis très en colère sur ce sujet.
Moi, je suis pour la suppression de la Cour des comptes pour faire des économies, déjà. On en parle pas mal de gens qui sont totalement hors sol et qui ne servent à rien, puisqu'ils n'ont qu'un avis consultatif, donc on n'a rien à cirer. Alors, il est que consultatif, leur avis. Donc, ils peuvent dégager.
Ils font de gros rappels à l'ordre, quand même.
Oui, rappel à l'ordre, super, c'est pas bien. Et au bout de 10 rappels à l'ordre,
on va avoir une obligation de résultat derrière.
Mais si ces gens-là pensent qu'aujourd'hui, l'impôt va tout solutionner, parce qu'ils sont incapables d'aller plus loin que le bout de leur nez. Je l'ai dit, je le redis dans cette émission. Il y a deux façons de voir les choses. Soit on estime que la priorité pour remonter les comptes publics, c'est le budget de l'État et la taxation et par l'impôt. Soit on part du principe que la priorité, c'est le bien-être des Français et que quand on aura rétabli le bien-être des Français, les comptes publics se rétabliront aussi parce que ça ira avec, parce que les Français consommeront, les Français seront dans une attitude positive. Moi, je leur dis un truc, hein. Prenez tout. Prenez 100% d'impôts. Filez-nous 100% qu'on n'en voit pas. Parce que chaque fois, vous augmentez un peu. Prenez 100%. Voilà. Le budget de l'État ira bien. On va réduire la dette. Prenez 100%.
Charles.
Non, moi, je suis pas surpris parce que quand même, 30 milliards de recettes en moins, c'est sûr que c'est pas rien. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il existe une administration en plus de la Cour des comptes pour faire cette recommandation puisque tu l'as cité, il y a le Conseil des prélèvements obligatoires. Non, comment tu l'as appelé ?
Oui, c'est ça, c'est le Conseil des prélèvements obligatoires, mais c'est affilié à la Cour des comptes.
Affilié, oui. C'est merveilleux.
C'est une business unit.
Maintenant, on crée des groupes publics. Donc, je ne suis pas surpris. Et de toute façon, le Cornu a réussi à endormir tout le monde sur ce sujet.
J'ai la vente de sardines en boîte cartonne chez les jeunes. C'est le sujet d'Olivier. Hein. Augmentation de 27% chez les 18-35 ans. C'est même devenu l'aliment star des réseaux sociaux. Pourquoi un tel engouement ? Parce qu'il est présenté comme un super aliment. Très riche en protéines, bourré d'oméga 3. La sardine en boîte devenue donc un symbole du mieux manger, pas cher en plus, avec des milliers de publications qui vendent ses qualités nutritionnelles, à tel point que certains rayons se font carrément dévaliser. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Charles ?
On s'en fout pas.
Flora ?
On s'en fout pas.
Mourad ?
On s'en fout pas, c'est un sujet majeur.
Oui. Charles, tu manges des sardines ?
Moi, j'adore les sardines. J'ai hésité à dire que je m'en foutais quand même, parce que je veux pas épiloguer sur le sujet. Mais oui, c'est délicieux les sardines, manger des sardines. Je pense que c'est plus sain pour la santé que de se faire des gros steaks dans des burgers. Après, ça dit aussi des problèmes
du pouvoir d'achat
d'argent, si tu veux. C'est-à-dire que c'est aussi un plat économique.
C'est trop salé.
Mourad.
Qui montre que les jeunes...
J'essaie de manger des sardines plusieurs fois par semaine. Alors
T'as un objectif de plusieurs sardines.
Ouais, beaucoup de nos éditeurs se posaient la question sur le secret de ma pertinence dans mes interventions. Mais voilà, je l'avoue aujourd'hui.
Tu es nourri à la sardine.
C'est les sardines parce que c'est un aliment complet. Et alors, l'avantage aussi, c'est que même dans les sardines en boîte, on ne perd rien des qualités de cet aliment. Donc, j'essaie d'en manger plusieurs fois par semaine.
Flora,
tes sardines aussi.
Non, moi, j'aime pas ça, mais on s'en fout de moi. En revanche, les tendances sur les réseaux sociaux, quand elles sont positives, je trouve que c'est pas mal. Parce que la sardine, c'est bon pour la santé, c'est assez écologique, figurez-vous, comme poisson, et c'est pas cher. Donc en fait,
c'est pas plein de métaux lourds aussi, là.
Alors, j'avoue qu'il faudrait que je révise le bilan écologique précis de la sardine, mais je peux vous l'amener la semaine prochaine avec moi. Il me semble que c'est pas le pire des poissons à consommer. Mmh. En tout cas, c'est beaucoup mieux que le saumon et le thon.
Ça cartonne comme les œufs, parce que c'est pas cher, les œufs, c'est pas protéines, c'est beaucoup moins cher que la viande, et les jeunes se font des œufs.
Le caviar, c'est assez complet aussi. On se demande pourquoi les gens n'en mangent pas plus.
Ces deux chanteurs cultes reconstituent leur duo 35 ans après. Est-ce que tu viens pour les vacances, le tube de l'été 88? David et Jonathan, donc, et bien 35 ans après, ils se retrouveront sur la scène de la tournée RFM Party 80.
Ça va changer.
Ce sera à partir de 2027. C'est ce qu'ils ont annoncé, en tout cas, dans une interview au Parisien hier. Sujet fondamental également aujourd'hui, Charles. Ouais. Tu t'en fous ou pas?
On s'en fout.
Ah bon? Morad?
Moi, je m'en fous pas.
Flora?
Moi, je m'en fous pas.
Il y en a qui ressemble de plus en plus à Jacques Martin, vous trouvez pas, là? Celui qui est le petit, là.
Et l'autre, un peu à Xavier Dupont de Nicolas, c'est Martin. Plus de cheveux.
C'est l'autre qui s'est
pris. Bah, il va être content. Flora, alors, c'est ta génération, un peu?
Alors, pas du tout, j'étais pas née.
Ouais,
merci. J'étais vraiment loin. Bah, je suis née en 94. J'étais vraiment loin d'être née.
Les années 80.
Et je suis vraiment beaucoup plus jeune que ça, voilà. Donc, tu es beaucoup plus vieille que moi. Non, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Non, je rigole. En revanche, j'ai une nostalgie d'une époque que je n'ai pas connue, du fait qu'il y a un tube de l'été et on s'en souvient 40 ans plus tard, alors même que moi, j'étais même pas née. Et en fait, j'ai peur qu'aujourd'hui, avec les trends sur les réseaux sociaux, on n'arrive plus à garder des souvenirs aussi forts. Qu'est-ce que tu faisais l'été 88? T'as eu ta première amoureuse? T'as fait quoi? Et bah, je suis sûr que tu t'en souviens.
Mon premier râteau. Non, David.
Premier râteau.
T'as
fait un slow. Sur cette chanson dans une boum.
Bah,
enfin,
sûr.
Je suis sûr que tu t'en souviens. Et je trouve ça triste pour la jeunesse d'aujourd'hui. C'est quoi leur marqueur de jeunesse? Ils se souviendront quoi de la traîne Master Poulet? C'est vrai qu'ils avaient beaucoup commenté cette affaire. Ou alors ils avaient beaucoup repartagé des posts de sardines. Non. Donc c'est ça qui est triste.
Vous n'avez pas eu une excellente.
Là, je deviens carrément
réactif.
Moi, c'est ma nostalgie. C'est bon. Il y avait David et Jonathan. Il y avait le groupe Nakash. C'est les parodies des nuls qui me rappellent tout ça. Et puis la deuxième chose qui est toujours fascinante, c'est comment c'est la vie quand t'es un Peter Falk. Peter Falk, c'est Columbo quand on le voit. Et eux, je pense que toute leur vie, depuis 30 ans, chaque fois qu'ils rencontrent quelqu'un qui les a identifiés, il leur dit qu'est-ce que tu fais pour les vacances. Voilà, et ça te marque.
Mais qu'est-ce qui était devenu en 35 ans? Parce qu'ils ne se voyaient pas depuis 35 ans. Ça m'interroge. Bah,
je pense que j'en ai un. Il y en a un des deux, là, je ne sais plus lequel, que j'ai vu dans une émission qui est plutôt brillant, qui a réussi dans ses affaires.
Allez, dans un instant, avec les GG, avec les grandes gueules, 300 euros la journée, les dealers font les annonces de recrutement en direct sur les murs à Grenoble.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.